Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Ben.
Salut à tous.
Et d'ATH.
Bonjour.
Pas de Mordren cette semaine, qui, soi-disant, avait un rendez-vous galant, n'est-ce pas, mais qui est en train de jouer à Ark Survival Evolved. Allez chercher à comprendre. Donc, au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de l'arrivée prochaine d'un RPG très attendu par ma personne. On enchaînera ensuite par Phantasy Star Génération 2, qui a enfin été traduit. On parlera de Sony, dont on a eu pas mal de nouvelles cette semaine, que ce soit du côté de la PlayStation Vita ou de la PlayStation 4. On évoquera également Fallout 4 sur PC, ainsi que certaines obligations qu'auront nos amis joueurs PC, n'est-ce pas Ben ?
Eh oui.
On parlera d'une interview de Yu Suzuki où il a notamment parlé des combats dans Shenmue 3. Nous parlerons de Blizzard qui investit dans l'e-sport. Du côté de Square Enix, on parlera de cette tendance qu'à cette boîte à faire revenir ses anciennes licences. Nous parlerons enfin, pour terminer, du véritable coût de développement des jeux. Pourquoi on vous parle de cette news cette semaine qui a été balancée sur Eurogamer? Parce qu'il y a un jeu sur Kickstarter, sur Indiegogo en l'occurrence, qui galère un peu à se faire financer, et il galère un peu à se faire financer, pourquoi? Parce qu'il demande 1 500 000 $, donc voilà, vous imaginez tous les problèmes que ça provoque, tout ça, donc on évoquera ça de manière étendue tout à l'heure. Allez, on commence, mon cher Ben, par le jeu avec lequel je vous bassine depuis des années, c'est Legend of Heroes Trails in the Sky Second Chapter.
Voilà, ben notamment tu nous bassines parce que cette suite n'est jamais sortie. Donc la suite de Legend of Zero Trails in the Sky, qui était un jeu PSP à l'origine, mais qui avait un remake PC et PS Vita, enfin PSN.
Ah non, c'est pas tout à fait ça. À la base, c'est un jeu PC qui a eu droit à une sortie sur PSP avec des suppléments, avec des trucs supplémentaires, et qui revient sur PC avec les suppléments de la version PSP.
Voilà, en fait, il est sorti deux fois sur PC.
Voilà, parce que Falcom, il faut savoir, c'est un des rares éditeurs japonais qui, à une certaine époque, sortait tous ses jeux sur PC, en fait.
Et donc, oui, tu attendais depuis qu'on se connaît, en tout cas, tu me bassines avec ce jeu. D'ailleurs, j'ai acheté le premier que j'ai toujours pas fait. Et tu me disais, ah, j'attends la suite.
Parce que, notamment, ça se terminait sur un cliffhanger de taré.
Voilà, ouais, il y avait un gros cliffhanger sur la fin. Donc, ça, on va pas aller plus loin parce que je vais pas me faire spoiler, mais. Voilà. Et donc, on en parlait justement la semaine dernière de X-Seed. Et ben là, la petite news qui sort de nulle part, personne s'y attendait. Et ben voilà, le jeu, la suite sort enfin. Et en plus, elle sort le 29 octobre. Donc, dans quelques jours, par rapport à nous aujourd'hui, donc ça se trouve quand vous allez écouter le podcast, ça sera quasi sorti. Donc une sortie sur PC et PSP,
ce qui est suffisamment bien pour être noté, parce que je veux dire, ils n'étaient pas obligés de faire une sortie sur PSP, hein.
Non. Bah après, on imagine que du coup, si c'est sur PSP, ça a des chances d'être sur le PSN.
Donc sur la Vita.
Peut-être, oui, voilà, une sortie future sur Vita aussi. Il n'y a pas de raison, vu que le premier chapitre était sorti sur Vita, ça risque d'arriver aussi. Ça va coûter $30. Donc sûrement 30 € aussi pour nous. Et puis bon, voilà, c'est une news qui sort un peu de nulle part, personne s'y attendait, mais je pense que voilà, les gens qui ont fait le jeu, et visiblement c'est un jeu pour ceux qui ont joué, tout le monde l'a apprécié. J'ai pas eu de mauvais retours pour les gens qui ont joué à ce jeu, même si j'en connais pas tant que ça.
Bon, après c'est un jeu bavard, hein, je préviens tout de suite, pour ceux qui n'aiment pas les jeux japonais bavards, passez votre chemin.
Qui n'est pas du tout traduit en français, si je dis pas de bêtises,
non,
qui n'est qu'en anglais, voilà. Donc sachez que voilà, même si vous voulez faire le premier chapitre, il faut être capable de maîtriser un peu l'anglais, parce que vous allez en bouffer, quoi.
Bon, après, c'est pas de l'anglais.
Non, c'est rien de compliqué, mais bon, c'est vrai que si on veut capter toutes les nuances, parce que de ce que tu m'en as dit, c'est, il y a quand même une grosse partie sur l'histoire. C'est pas un JRPG banal qui faut sauver le monde, enfin assez simple. Il y a pas mal de cliffhangers, il se passe des choses, il y a des intrigues, donc il faut quand même un minimum maîtriser l'anglais, on va dire quoi.
Tout à fait.
J'ai une question, moi. Le premier était sorti chez nous sur PSP, c'est ça?
Alors chez nous, je ne pense pas. Enfin, je crois qu'il était sorti qu'aux États-Unis, en fait. Ils avaient pris le risque de le sortir en boîte aux États-Unis. Bref, non, c'est pas un jeu qui est sorti chez nous, par contre.
Oui, mais toi, justement, Tyrant, tu l'avais fait donc sur PC le premier?
Je l'avais fait sur PSP. J'avais acheté à l'époque où il était sorti sur PSP la belle boîte là. J'avais
Voilà, et après, t'as fait l'espèce de
voilà.
version refaite mieux sur PC.
Enfin, en l'occurrence, je l'ai acheté, mais j'ai jamais fait parce que
Ah.
pas le temps.
Ouais.
Mais par contre, je suis tellement fan de ce jeu que la version PC, je l'ai acheté en double. Hein. J'ai acheté la
D'accord.
version Steam et j'ai acheté la version Google Games.
Non, mais justement, ce que je voulais savoir, enfin, je sais pas, peut-être que t'as eu des retours, est-ce que c'est un jeu qui est plus dans l'idée que tu peux jouer sur une console portable parce que tu peux y jouer par petite phase sans jouer trop longtemps, ou c'est quand même plus agréable d'y jouer sur PC?
C'est un JRPG, tout ce qu'il y a de plus JRPG, c'est-à-dire que c'est long, et c'est un jeu que tu joues dans ton lit, effectivement, avec ta PSP, mais auquel tu joues longtemps.
C'est pas un jeu auquel tu peux passer juste 15 minutes et passer à autre chose,
Voilà, c'est
quoi.
pas Horishika, pour faire
Voilà, ouais.
simple. Horishika, pour le coup, dont l'expérience est vraiment conçue pour une expérience
Voilà, prendre.
portable, qui est très intéressante d'ailleurs, mais propose une expérience portable.
Il se rapprocherait de
Ok.
plus de quel genre de JRPG? Parce que là, comme ça, tu me
Ben,
dis.
old school. C'est un JRPG old school, tout
Ce serait
simplement.
plus parmi du Tale of, du Final Fantasy, dans son approche.
Bah, enfin, si tu veux, c'est un JRPG en tour par tour, avec des intrigues politiques. Alors, au niveau intrigues politiques, ça fait un peu penser à Suikoden. Mais à part ça, enfin voilà, c'est très classique en fait,
C'est
comme
du tour par tour, donc
voilà.
c'est pas un Tales of.
Non, c'est pas Tales of, c'est pas un JRPG hyper dynamique. C'est un
C'est à
JRPG,
l'ancienne, c'est
faut
vraiment à
vraiment
l'ancienne.
réfléchir, voilà quoi.
Parce que moi, en ce qui concerne tout ce qui est intrigue politique, j'avais bien aimé le Final Fantasy Tactique, tu vois. Ça se rapproche un peu de ça, genre scénario?
Alors, c'est pas non plus au niveau Final Fantasy Tactics, parce qu'il faut savoir que Final Fantasy Tactics, pour moi, c'est un monument. Enfin, je suis pas fan de Final Fantasy, sauf de Final Fantasy Tactics, voilà, en gros. Enfin, pour moi, Final Fantasy Tactics, c'est un autre niveau, c'est une autre dimension, quoi, on va dire, en termes d'intrigue politique, en tout cas. Mais c'est quand même assez intéressant. Après, c'est quand même une ambiance beaucoup plus bon enfant, on va dire, entre guillemets. C'est plus un jeu auquel tu vas jouer parce que tu t'attaches aux personnages qui sont vraiment super attachants. Si t'accroches pas aux personnages, par contre, je pense que c'est un jeu qui peut vite lasser. C'est un jeu qui met longtemps à démarrer. Enfin, je vous renvoie à ma critique que j'avais faite sur le jeu à l'époque. Mais c'est un jeu quand même qui est très bavard, qui met du temps à démarrer. Et du coup, si t'accroches pas au perso, vraiment, ça peut coincer, quoi. Et c'est un jeu, si tu veux, qui avait un système. Enfin, ça ressemblait un peu au matériel de Final Fantasy VII dans un autre style, mais enfin, c'était très intéressant aussi. Bref, c'est un JRPG à l'ancienne, qui est très addictif, qui est très long aussi, qui a beaucoup de dialogues. Bref, vous en aurez pour votre argent. Et surtout que celui-là, en plus, il faut savoir que le premier chapitre, c'était l'un des jeux qui avait coûté le plus à Ixid à traduire, en fait. Et cette suite est vachement plus grosse en termes de traduction, quoi. Le boulot dessus est énorme, donc ça veut dire que le jeu est encore plus long. Pour ceux qui connaissent pas la série, il faut savoir qu'à la base, c'est une trilogie, en fait. Le troisième épisode ne sera probablement jamais traduit, mais c'est pas grave, parce que le troisième épisode, c'est plus un épisode de transition, parce que il faut savoir que les Legends of Heroes, en tout cas, les récents, ils se déroulent tous dans le même univers, en fait. Il y a des Legends of Heroes où on retrouve Joshua et Estelle, qui sont les héros de Trails in the Sky, où ils sont pas les héros principaux, quoi. Et le troisième épisode fait vraiment la transition entre Trails in the Sky et d'autres Legends of Heroes qui ont suivi. Mais pour le coup, l'histoire de Joshua et Estelle se termine plus ou moins dans le chapitre 2, en fait. Donc ne vous inquiétez pas en vous disant « Oui, mais le chapitre 3 sortira peut-être jamais », c'est pas grave, parce que l'histoire de Joshua et Estelle, elle se termine là.
Mais je suis sûr que de toute façon, il y aura. Si le 3 ne sortait jamais dans nos contrées, il y aura bien quelqu'un qui va le traduire la version japonaise à
Ah,
l'anglais.
peut-être, hein. Mais après, je sais pas quelle longueur fait le chapitre 3, je pense qu'il est moins long, mais il faut avoir bien conscience que si c'est un jeu qui a mis autant de temps à être traduit, en tout cas le chapitre 2, c'est parce que, en termes de boulot de traduction, c'est monstrueux, quoi. Apparemment, c'est un des JRPG, les plus casse-burnes à traduire, quoi, entre guillemets, parce que, en termes de quantité de texte, c'est énorme, quoi. Voilà. Bref. Je vous propose qu'on passe à la suite, messieurs. Et je vais vous parler de Phantasy Star Generation 2. Tu m'offres une transition parfaite, ATH, puisque pour le coup, c'est un JRPG qui était sorti sur PlayStation 2. Phantasy Star Generation 2, je le rappelle, c'était un remake de Phantasy Star 2, en fait. Il y avait aussi un Phantasy Star Generation 1 qui avait été traduit par une équipe d'amateurs. Et donc, cette même équipe d'amateurs qui nous avait fait le plaisir de traduire le remake du premier épisode, eh bien, ça y est, ils ont traduit le remake du second. Et je vous incite très fortement à le faire si vous n'avez pas testé Phantasy Star 1 et 2 à l'époque sur Mega Drive. Pourquoi ? Parce que pour le coup, c'est un vrai remake qui rend les jeux, on va dire, plus agréables à l'œil. Alors peut-être c'est artistiquement, je trouve ça un peu trop lisse, hein, un peu trop propre si vous voulez, mais il faut reconnaître une chose, c'est que ce sont des remakes qui sont quand même vachement plus agréables à jouer que les versions Mega Drive, il faut dire ce qu'il y a, parce que les jeux sur Mega Drive ont quand même super mal vieilli, quoi, en termes de graphisme, hein, je parle. Et en plus, c'est des jeux, si vous voulez, des remakes qui rajoutaient des dialogues, etc., donc c'était assez intéressant. Donc, ma foi, bravo à cette équipe d'amateurs. Donc, si vous cherchez ces remakes, ils sont disponibles sur le site pscave.com. Alors, par contre, les mecs, ils sont chauds, hein, ils proposent carrément l'ISO patché direct, comme ça. Alors, certes, il est pas gros l'ISO, hein, mais quand même, quoi. Connaissant ces gars qui est assez procédurier, ils ont pas peur. Hein. Mais dans tous les cas, merci à eux. Je le ferai probablement un de ces quatre, comme j'avais fait le remake du premier. Et vraiment, si vous avez pas fait les Phantasy Star à l'époque, faites-les, parce que ça fait partie de ces JRPG qui ont participé à la fondation du genre. Tout le monde, vous savez, parle de Final Fantasy VII, Aeris, tout ça, ben, Phantasy Star l'a fait bien avant lui. Je n'en dirai pas plus. Donc voilà Ben, je sais que tu n'as pas fait les premiers Phantasy Star et c'est un peu mon cher Ben.
J'avais une Mega Drive à l'époque, mais bon, c'est quand j'ai commencé le jeu vidéo et je pense que c'était pas forcément le type qui m'attirait à l'époque. Et c'est vrai que bah je suis complètement passé à côté de cette licence et pourquoi pas, mais bon, il y a tellement de jeux à faire aujourd'hui, c'est dur de se remettre sur des vieux jeux.
Voilà. Dans tous les cas, si vous faites partie de ces gens qui êtes attirés par ces jeux-là, mais qui ne pouvaient pas y jouer parce que c'était juste trop moche, quoi. Tout simplement. Pour le coup, vous n'avez plus aucune excuse, parce que vraiment, ils sont... Après, c'est pas un remake non plus de ouf malade, hein, mais c'est pas non plus un remake, tu sais, à la Square Enix, on te ressort le même jeu, sauf qu'on on applique un filtre dégueulasse dessus. Non, là, c'est quand même un vrai remake, avec des graphismes 2D mignons refaits, quoi. Alors, c'est pas des graphismes de ouf non plus, mais ça fait son boulot, en tout cas, et c'est très agréable à regarder sur une télé aujourd'hui, quoi.
Ils ont ajouté aussi des scènes cinématiques, mais ça apporte quelque chose en plus ou pas, ce genre de scène?
Ce qui est intéressant, c'est les nouveaux dialogues qu'ils ont rajoutés. Parce que c'était pas forcément des jeux hyper bavards à l'époque. Et les dialogues qu'ils ont rajoutés, je trouve qu'ils apportent un vrai plus à l'expérience, donc à faire, quoi.
Ouais.
Messieurs, je vous propose de passer à la suite.
Ouais.
Et c'est toi qui vas garder la parole, ATH, puisque nous allons parler de l'actualité de Sony. Déjà, pour commencer, du côté de la PlayStation Vita, puis après, le gros morceau avec la PlayStation 4.
Donc c'était lors d'une interview accordée au site 4Gamer que le président de Sony Computer Entertainment a affirmé que les studios first party de Sony ne développaient plus de jeux sur la PS Vita.
Surprise.
L'explication qu'il donne, c'est parce que voilà, il y a beaucoup de third party qui travaillent sur la PS Vita et eux préfèrent travailler sur la PS4 qui est une nouvelle plateforme et qui préfèrent concentrer leurs efforts sur cette machine-là.
Ouais, alors third party peut-être au Japon, mais il faudrait qu'ils sortent les jeux chez nous, quoi. Enfin bref. Après, j'ai envie de demander, est-ce que c'est une surprise pour quelqu'un ici?
Bah non, ça fait tellement longtemps que Sony n'a pas développé de jeux sur PS Vita.
Enfin, ça fait en tout cas un moment qu'on est au courant qu'il y a plus de jeux first party de Sony qui sortent sur PlayStation Vita. Merci Captain Obvious, j'ai envie de dire, c'était très sympa de votre part.
Ouais, il y a pas longtemps, on a eu une news, enfin ils nous ont sorti une news comme quoi ils feraient plus de consoles portables, là il y a ça, enfin bon, c'est des choses auxquelles on s'attendait. C'est une surprise pour personne et puis c'est voilà, c'est la Vita est morte depuis un moment et ça se confirme de plus en plus, on va dire.
Alors par contre, ATH, nouvelle beaucoup plus intéressante, il y a une baisse de prix en Europe.
Une baisse de prix, mais cette fois-ci pour la PlayStation 4.
Voilà.
Non, la PS Vita, il la donne maintenant.
Il te paye pour que tu joues. Donc la PS4 passe maintenant à 349€ en Europe. Avant, il était affiché au prix de 399€. C'est pour le modèle 500 gigaoctets. Et dans ces lots-là, maintenant, il y a le nouveau modèle qui est de 1 Tera, qui lui coûtera 399€, donc qui était le prix de la PS4 actuelle, mais à 500 gigaoctets.
D'accord. Bon, bah, c'est intéressant, ma foi.
Bah, oui, ça fait un jeu en plus, on va dire, si tu prends le modèle à 350, mais sauf que t'auras 500 gigas. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux prendre le modèle à 1 Tera, 400€, quoi. parce que c'est vrai que les jeux HD comme ça, ils prennent beaucoup beaucoup de place sur le disque dur. Par exemple, pour ne citer qu'un jeu, par exemple un GTA V prend, je crois, 50 gigaoctets sur la PS4, donc ça te fait 10 GTA V, et puis après, si t'es collectionneur un peu comme moi, t'es un peu dans la merde.
Ouais. J'ai envie de dire, après, ça dépend de votre connexion. C'est sûr que si t'as la fibre, bon... Après, je sais pas si les serveurs du PlayStation Network suivent, ça c'est la question. T'as beau avoir la fibre, si les serveurs de Sony suivent pas, c'est un peu con, tu vois.
Disons que ce côté-là, c'est beaucoup mieux que ce qui était sur PlayStation 3. Sur PS4, ce qui est vraiment bien, c'est que genre... un jeu pour s'installer mais genre 30 secondes quoi, tu mets le jeu et pour installer les 50 Go, il met 30 secondes vraiment. Après les mises à jour, quand il se télécharge derrière, c'est ça qui prend le plus de temps, donc tu pourras toujours jouer à ton jeu, mais il y aura pas tous les patchs quoi qui auront été appliqués, et quand, aujourd'hui on sait que les patchs c'est vraiment important quoi.
Bah surtout que les mecs ils s'en foutent un peu, ils te sortent les jeux comme ça. Hein, c'est des projects. Hein, messieurs, grâce à vous, je peux toujours pas jouer à mon The Witcher parce que vous sortez un patch tous les 4 matins. Hein, merci beaucoup.
On est au patch 1.11 alors que c'est un jeu solo uniquement quoi. Ça aurait été pour un jeu multijoueur, j'aurais dit encore pour régler les problèmes de matchmaking et tout ça. Ça prend du temps, mais là c'est vrai que c'est des projets qui sont à 1.11, GTA 4 ils sont à 1.14, t'as vraiment besoin d'une connexion internet aujourd'hui pour jouer à tes jeux dans les meilleures conditions, quoi.
Tout à fait. Ben?
Oui.
Tu vas nous parler de Fallout 4 maintenant?
On va parler de Fallout 4, mais pas vraiment du jeu pour le coup, mais plus de du news qui est sorti nous disant que bah, Fallout 4 sur PC, même si vous achetez la boîte, eh ben vous allez devoir avoir un compte Steam.
Alors ça, j'ai envie de dire, on va appeler ça une news Thanos. Parce que ça, c'est les news qu'il aime bien, tu vois. Il apprécie beaucoup ce genre de pratique, je crois. Donc
Voilà, donc la justification, c'est que aujourd'hui le support du DVD est pas assez gros pour faire rentrer un jeu entier dessus. Certes. Mais bon, ça arrange bien aussi de coller des petites DRM et de dire ah ben allez, on vous oblige à passer par Steam, et comme ça nous on se protège aussi un petit peu, et bon c'est pas très cool parce qu'on a vu que Witcher 3 était passé par GOG, donc DRM free, et avait fait des ventes énormes sur PC. Donc aujourd'hui on se dit pourquoi les autres ne le feraient pas aussi? C'est pas ce qui va empêcher un jeu de se vendre.
Oui.
Aujourd'hui, on sait que les gens qui veulent pirater des jeux, ils y arrivent, parce que de toute façon, un jeu, aujourd'hui, il n'y a aucun jeu qui est infaillible, aucune sécurité infaillible, donc c'est la personne qui veut pirater son jeu, elle y arrivera.
Ouais, parce que, pour repréciser le contexte, évidemment, quand ils ont annoncé ça, ça a râlé sur Twitter, notamment, et il y a le RP de chez Bethesda, qui a répondu, oui, mais de toute façon, ça fait des années qu'on fait ça, et si vous êtes pas content, allez vous faire foutre. En gros, c'était pas dit comme ça, évidemment.
Mais c'était presque ça, ouais.
Voilà. Et, en gros, il disait qu'il faisait ça parce que piratage. Alors, déjà, piratage, parce que le fait de sortir ces jeux sur Steam, avec,
ça règle tous les
Steam
problèmes.
Obligatoire, ça empêche le piratage, c'est une première nouvelle, moi je sais pas, hein, quasiment tous les jeux sur Steam sont piratés quand ils sortent, quoi.
Bah, oui.
Donc, qu'est-ce que ça change? Je l'ignore. Enfin, bref. À côté de ça, par contre, il a soulevé un point que je trouve très intéressant et que j'évoquais déjà la semaine dernière, d'ailleurs. À savoir que, oui, mais vous les achetez quand même, les jeux.
Et
donc,
oui.
Si vous râlez, bah, il faut pas les acheter, les jeux derrière, pour que ça ait un effet, tu vois, sur la politique commerciale de l'éditeur. C'est l'illustration parfaite de ce que j'expliquais la semaine dernière. Le mec, il te répond, bah ouais, mais tu l'achètes le jeu.
Ah bah eux, dans l'idée, eux, ils vont pas s'en priver.
Voilà.
C'est ce qu'on disait, on a déjà eu voilà ce débat avec les Assassin's Creed, l'achat de jeux Day One, c'est toujours pareil. Le seul moyen aujourd'hui pour nous de lutter, c'est entre guillemets de pas cautionner ça, n'achetant pas soit le jeu, soit pas le jeu Day One, enfin voilà, c'est...
Alors après, j'ai pas forcément envie de faire un procès à Bethesda en particulier, parce que c'est loin d'être les seuls à sortir des jeux sur galette, où en fait, la galette, c'est un truc pour Steam, et quand tu lances la galette, c'est Steam qui se lance et qui télécharge le truc, quoi.
Oui, ce que j'allais dire, moi j'ai acheté Borderlands 2, enfin pas le 2, le pré-sequel, il y a un an et demi, il faisait déjà ça. C'est pas... Moi aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui m'étonne, qui m'étonne. Ça m'étonne pas, mais ça me fait chier.
Alors après, j'ai envie de dire combien de gens achètent encore leur galette sur PC, là j'ai un doute. Alors après, je cherche pas à excuser la pratique, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, les gens se sont habitués. C'est plus ou moins ce dont on discutait cette semaine dans les forums. C'est-à-dire que moi, à la limite, que ce soit Steam obligatoire, très bien. J'ai toujours expliqué que moi, j'acceptais cette contrainte parce que le jour où Steam se fout de ma gueule, je vais sur BitTorrent. Et que de toute façon, le Fallout qui sort, là, il est hors de question, je paye 60 euros. Hein. Je payerai quand il sera à 30.
Oui, bah, on est d'accord.
Bah, du coup, tu vas le faire sur quelle plateforme, Ben, Fallout 4?
Bah alors, la question, c'est que ma copine aime bien ce jeu aussi, donc ce que je disais tout à l'heure attirant, peut-être au final le prendre un peu plus tard sur PS4 pour qu'on y joue un peu plus ou moins à tour de rôle, ou que si moi je joue, elle se fasse pas chier à côté à regarder, parce que voilà, c'est un jeu qu'elle apprécie pas. Mais je sais pas encore, je vais voir. Quoi qu'il arrive, de toute façon, comme je l'ai dit, je le prendrai pas Day One, j'attendrai qu'il y ait une baisse de prix, parce que enfin c'est aujourd'hui c'est juste trop cher, et puis j'attendrai des retours, parce que le 3, j'avais été grandement déçu, moi qui étais un fan du 2, donc un jeu quand même assez différent en termes de gameplay. J'avais été super déçu du 3, donc là, je vais attendre un moment avant de me décider.
Je l'ai déjà expliqué ici, hein. Pour moi, c'est pas Obsidian qui fait, ça m'intéresse pas. Parce que Bethesda, je sais qu'ils font faire un Elder Scroll avec des flingues, donc alors peut-être que je le ferai plus tard, tu sais, quand il y aura plein de modes, etc. Mais là, a priori, comme ça, c'est pas un jeu qui m'intéresse beaucoup, quoi. Pas parce que c'est un mauvais jeu fondamentalement, hein. C'est juste que c'est pas une expérience qui moi me botte particulièrement, et que j'ai déjà une chier de jeu à faire de toute façon, donc bon, voilà.
Ouais.
Mon cher ATH.
Oui.
Nous allons maintenant parler de Shenmue 3.
Exactement.
Et notamment d'une interview qu'a fait Yu Suzuki, où il parlait plus en détail du système de combat. Alors par contre, un système de combat qui, si j'ai bien compris, dépend du palier de financement, parce que il faut savoir qu'en gros, ce dont on va parler là, ça fait partie des paliers qu'il y a actuellement sur, entre guillemets, la campagne du jeu, parce que le jeu n'est plus en campagne Kickstarter, mais vous savez qu'ils avaient ouvert un site où on peut continuer à financer le jeu, etc. Et donc, ce dont on va parler là, pour l'instant, c'est pas prévu dans le jeu, ça ne viendra dans le jeu que si ils ont l'argent. Ce qui déjà, à la base, quand même, est assez curieux, je tiens à le signaler, parce que quand même, un jeu où un truc aussi important que le système de combat est modulé en fonction du pognon que tu reçois, j'avoue que ça me paraît très curieux, hein, en termes de développement, tout ça, mais bref.
Oui, parce qu'il faut savoir pour atteindre ce palier dont nous allons parler, il faut attendre les 7 millions de dollars, et là, actuellement, ils en seront à 6,4 millions de dollars. Ils ont ouvert un compte PayPal suite au Kickstarter, et il faut savoir que leur compte PayPal, les fonds sont toujours au point mort. Il n'y a pas beaucoup de rentrée d'argent qui arrive, donc pour l'instant, le système qui est nommé le All Batting, c'est comme si il n'était pas en développement, quoi. Donc pour l'instant, c'est vraiment que des idées de Yu Suzuki. C'est lors d'une interview d'ailleurs qui a été faite à Dual Soccer que Yu Suzuki nous a dit un peu plus sur ce système. Donc il veut rendre un système où les coups sortent automatiquement en se basant sur la distance et les positionnements de Ryu par rapport à l'adversaire. C'est-à-dire que si Ryu met un coup de poing et que l'adversaire est un peu plus excentré sur la droite, il va automatiquement faire un pas de côté pour aller lui mettre son poing dans la figure et lui présenter ça gentiment.
Et il voulait faire aussi un système avec des ragdolls. Si, par exemple, tu sais, t'as des tonneaux derrière le mec, tu lui donnes un coup, le mec, il va percuter les tonneaux, ça va faire une animation en ragdoll, tu vois, et t'as des tonneaux qui vont s'écrouler, etc. Enfin, bref, vraiment un truc dynamique où aussi tu exploites l'environnement lors des combats, quoi.
Ouais, il y a aussi un autre exemple qu'il a donné, si Ryo se trouve près d'un mur, et qui va appuyer sur la touche coup de poing, par exemple, il va mettre un coup de pied au mur pour se projeter vers l'ennemi, pour faire un combo aérien, entre guillemets. Il veut vraiment que ça ressemble à un film, autant pour l'histoire en elle-même et aussi pour la romance entre Ryo et Shenhua. Il y a vraiment quelque chose qui ressort de ça, c'est qu'il est très très inspiré par le cinéma, il veut inclure ça dans Shenmue 3, quoi.
Bon, c'est le moment où je dis ce que je pense.
Oui, bah tu as le droit de dire ce que tu penses maintenant.
Alors, en fait, ma première réaction, ça a été « putain, qu'est-ce que c'est cette merde ?» Bon, ça, c'était la première réaction à chaud comme ça, donc heureusement, j'ai pas réagi à chaud. Ma seconde réaction, c'est plutôt « j'attends de voir ». Pourquoi ma réaction initiale était négative ? Il faut que je vous explique, en fait, mon rapport avec Shenmue, et la manière dont j'aborde l'expérience du jeu, en fait, sinon, c'est incompréhensible. En gros, pour moi, ce qui fait l'expérience Shenmue, ce qui fait que j'ai apprécié ce jeu, c'est que c'est un jeu où tu as deux temps, si tu veux. T'as le premier temps où c'est un jeu peace, tu vois, où tu te balades, etc. Où, tu sais, t'as les phases d'apprentissage en QTE, un peu comme dans un film de baston chinois, etc., où tu apprends les coups et tout. Et puis, tu as un second temps où là c'est des phases de bataille, enfin d'arts martiaux quoi, où là c'est un jeu beaucoup plus pointu, beaucoup plus technique. Et en gros, ce qui faisait pour moi mon attrait vis-à-vis de ce jeu, c'est que c'est un jeu vraiment où j'avais l'impression de jouer un film de baston chinois. C'est-à-dire que tu as les phases d'apprentissage, où petit à petit tu apprends tes coups, où tu galères à prendre tes coups aussi, parce que Shenmue, c'est le système de combat de Virtua Fighter à la base, hein, je le rappelle. Et en gros, pour ceux qui auraient oublié, dans Shenmue, quand t'apprends tes coups, au début tu les rates, tu vois, parce que y a des timings assez précis à sortir, y a des cartes de cercle à faire, etc. Et en fait, si tu veux, c'est un de ces rares jeux où j'avais vraiment l'impression que la narration était en cohérence avec le gameplay. C'est-à-dire que au début, tu vois, tu galères, t'es l'apprenti, puis à la fin, quand tu maîtrises tes timings, etc., tu passes en maître, quoi. C'est, t'as une sensation de progression qui est énorme dans ce jeu. Et vient le moment où tu arrives dans les batailles, où là, tu dois mettre en pratique tout ce que tu as appris. Et où là, vraiment, t'as une espèce de sensation d'accomplissement, en fait. C'est-à-dire que ces putains de coups que tu as galéré à apprendre, ou t'as pris ton temps pour essayer de les maîtriser, etc. Maintenant, ça y est, t'es en phase de combat, tu les maîtrises. Et le fait d'arriver à les sortir de manière fluide dans les phases de combat où t'as 15 mecs qui tombent dessus, ou même lors des duels avec certains boss, c'est vraiment une espèce de sensation grisante que je n'ai ressentie dans aucun jeu. Sauf dans Virtua Fighter. Et le fait qu'on me dise, en tout cas qu'on me fasse miroiter que si ça se trouve, bientôt, dans Shenmue 3, je vais appuyer sur rond, on va dire, et que si j'appuie sur rond, ça va me sortir des coups de ouf, tu vois. Pour moi, ça détruit complètement l'expérience, en fait. Parce que si tu fais ça, tu annules complètement la courbe de progression, en fait. Parce que finalement, t'as plus besoin d'apprendre, quoi. Enfin, je veux dire, des coups, tu les sors comme ça, c'est la fête. Tu fais ce que tu veux, quoi. C'est Batman, en gros. Et moi, ça, en tout cas, personnellement, ce n'est pas ce que je cherche dans l'expérience Shenmue, tout simplement.
Et il y a aussi un autre point que je voudrais citer. Ils souhaitent faire un combat de boss basé sur la ruse, et ça peut être intéressant. Moi, je pense que un combat, tu sais, où genre c'est pas la force de ton ennemi ou de toi-même qui va déterminer l'issue du combat, où ça va être vraiment basé sur l'intelligence.
Où tu exploites l'environnement, quoi, en gros, c'est ça en fait. Hein. C'est tu exploites l'environnement pour.
Oui, ou bien tu vois, enfin, je sais pas de la manière dont il va aborder ce système-là, mais il y a quand même des idées qui sont assez intéressantes dans ce Shenmue 3 pour moi. On a aussi d'autres informations. Par exemple, la taille de l'aire de jeu, il faut savoir que Shenmue 3, ça va être décomposé en 3 villes. Et pour l'instant, on connaît la taille de la première ville qui fait à peu près la taille du premier Shenmue. Et enfin, une news totalement osef, mais il me semblait intéressant d'en parler, c'était le fait que le producteur Cédric Brisquet, va présenter Shenmue 3 à Albert II de Monaco. Voilà.
Non, ça par contre c'est la partie montage financier qui pue toujours autant, c'est-à-dire que en gros on t'explique alors oui on va te faire un village de la taille de la ville du premier Shenmue avec 6,5 millions de dollars. Oui, d'accord. Je suis dubitatif, hein, je vous le cache pas, mais bref, parce que si ça c'est un village, faut faire le reste après, vous voyez. Donc c'est toujours la même histoire, c'est qui finance le jeu derrière, tu vois, parce que je suis persuadé que c'est pas avec l'argent du Kickstarter qu'ils font ça. Hein. Il y a forcément quelqu'un d'autre qui met le pognon derrière, voilà.
Ouais, déjà Sony.
Ouais, tout simplement, ou même quelqu'un d'autre, hein, bah genre Albert, tu vois. Hein, bref.
Comme si t'es ton pote Albert.
Enfin, tu vois qu'ils démarchent les investisseurs, de toute façon, ça c'est évident.
Ça avait été dit, après le financement du Kickstarter, ils avaient dit, oui, on ferme pas la porte à d'autres investisseurs étrangers qui souhaitent investir dans Shenmue 3.
Non, mais de toute façon, c'est évident depuis le début, je veux dire, enfin, bref.
Ah bah, ça c'est clair et net, parce que c'est pas avec 6 millions que tu veux faire un Shenmue 3, enfin, surtout avec les ambitions démesurées de Yu Suzuki, quoi.
Voilà. De toute façon, déjà, tu vois comment il parle de son jeu, tu dis, mais tu réalises le budget que tu as ou... Enfin, bref.
Non, mais pour l'instant, je crois qu'il croit qu'il est encore chez Sega et qu'il signait le chèque sans regarder, quoi.
Pour revenir au système de combat, par contre, pourquoi, après coup, je me suis dit, bon, on va quand même attendre de voir, c'est parce que, fondamentalement, moi, ce que j'attends de l'expérience Shenmue, c'est pas antinomique avec ce qu'il cherche à faire. C'est-à-dire que on peut tout à fait faire un système très cinématique, tu vois, où quand même tu as une certaine maîtrise à avoir vis-à-vis des coups que tu sors. Tu peux très bien faire un système où Ryo effectivement s'adapte à la position de l'adversaire, etc. tout en faisant un système où les coups sortent pas comme ça, quoi. Enfin, donc moi c'est pour ça, j'attends de voir ce qu'il va faire vraiment, concrètement, sachant que la manière dont il parle du système de combat, si tu veux, c'est exactement la manière dont il parlait du système de combat de Virtua Fighter. Et on est tous d'accord pour dire que Virtua Fighter, c'est pas un jeu de combat pour les noobs.
Ah non, 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 c'est Virtua Fighter, c'est vraiment les animations réalistes déjà. Ouais. Par rapport à d'autres jeux du style, tu vois, c'est pas genre t'as deux frames où le mec il a le pied bas et le pied haut, c'est vraiment le détail qui est fait dans l'animation du pied qui était vraiment bah je crois que c'est un des premiers jeux qui a été motion capturé. Tu voyais bien que Virtua Fighter à l'époque par rapport à d'autres jeux de combat, il y avait une évolution majeure par rapport à ça, rien que dans le fait de l'animation des personnages. Mais moi sur Shenmue 3, je suis pas trop inquiet pour le moment. Parce que déjà, on en a rien vu, donc je veux pas supposer pour rien. Mais le fait que Ryo s'adapte un petit peu plus à l'environnement et sa position dans le combat, ça me fait pas trop peur parce que il faut se rappeler que Shenmue 1 et 2, c'est quand même des jeux assez rigides. Déjà, c'était un jeu où tu déplaçais le personnage à la croix directionnelle. Dans un jeu en 3D, ça fait quand même un petit peu bizarre. En fait, pour moi, ce qui serait l'idéal, c'est que pour faire, je sais pas, par exemple, un coup de poing retourné, t'as toujours ta combinaison à faire. Sauf que celle-ci va s'adapter par rapport à la distance de l'adversaire.
Ouais, c'est ce que je disais, c'est le fait de faire un système très fluide au niveau des animations, etc., n'empêche pas de faire quelque chose qui, par ailleurs, n'a pas forcément une prise en main pour les noobs.
Voilà. Et surtout, le point qu'il faut qu'il travaille le plus par rapport aux anciens Shenmue, hein, c'est vraiment la rigidité de Ryo. Et si, franchement, ils arrivent à avoir une aisance dans ses mouvements et quelque chose vraiment où t'as pas l'impression de contrôler un 38 tonnes, pour moi, le pari sera réussi, quoi.
Après, s'ils font un système à la Batman, c'est-à-dire que, par contre, pour le coup, les coups sont très simples à sortir, etc., est-ce que ça te dérangera pas ou
comment tu abordes ça? Moi, ça me dérangera un petit peu dans Shenmue, parce que, comme tu l'as dit, c'est pas Batman, c'est pas un super-héros, quoi. T'as vraiment l'impression de jouer un mec qui apprend les arts martiaux. Tu progresses, donc, comme tu l'as dit, c'est intéressant dans la narration de Shenmue, où Ryo apprend à chaque fois avec, par exemple, je sais pas si vous avez fait Shenmue 2, mais quand il y a la scène où il est en dessous d'un arbre, et il doit attraper la feuille au bon moment.
Ah ouais, ça c'est je pense que tout le monde
au début tu peux dire ouais mais ça sert à rien et tout ça, mais ça fait vraiment référence à tous les films d'arts martiaux chinois qu'on a pu voir où chaque mouvement en fait est fait petit à petit et après il est retranscrit dans le combat. Et ça c'est vraiment quelque chose qui était l'un des points forts de Shenmue pour moi. C'est pas un jeu où tu tabasses tout le monde dans la rue.
Voilà, il y a une vraie cohérence entre la narration et le gameplay, quoi, en fait, tout simplement. C'est vraiment un jeu qui te retranscrit la sensation d'être un apprenti en arts martiaux où tu progresses dans le jeu, quoi.
Parce que là, s'ils font un système de jeu comme ça, simple, à la Batman ou bien à la Sleeping Dogs, ils vont remplir le jeu par des combats, parce que c'est des combats qui sont rapidement expédiés, alors que Shenmue, les combats, ils sont un peu plus longs que à la moyenne, parce que c'est des combats où tu prends ton temps par rapport à ton positionnement, tu dois avoir ta garde vraiment en direction de l'adversaire et tout ça, sinon tu te fais bouffer par les mecs, parce que c'est, en fait, dans Shenmue, ce qui est important, c'est que les mecs, ça peut être des clampins, mais ils peuvent te défoncer ta gueule s'ils sont 3 ou 4.
Surtout, il faut voir une chose, c'est que si tu fais des combats comme dans Sleeping Dogs, tu changes complètement le rythme du jeu, en
voilà,
fait.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que ce que je trouvais intéressant dans Shenmue, c'est que certes, t'avais les phases zen, etc., où t'es finalement... c'était un jeu très contemplatif, quoi, entre guillemets. Et puis, d'un seul coup, t'avais ces phases de combat qui arrivaient, où là, t'étais beaucoup plus concentré. Enfin, c'était vraiment un jeu en deux temps, quoi. Et ces phases de combat, elles étaient rares. Mais quand elles arrivaient, tu vois, du coup, elles étaient d'autant plus intenses, quoi, quelque part.
Ouais, Shenmue, c'est quand même un genre un peu bâtard, entre guillemets, parce qu'il y a du RPG, il y a de l'exploration, un peu d'open world, etc. Et c'est vrai que la fréquence des combats, quand tu regardes sur le premier et sur le deuxième, c'est pas un jeu où Ryo passe son temps à bastonner les mecs, hein. C'est vraiment un jeu où il enquête, il prend son temps, il apprend des mouvements, et de temps en temps, t'as soit les combats en QTE, où ça fait vachement penser au film que t'as pu voir, ou bien soit t'es vraiment impliqué dans le combat, et là c'est vraiment un Virtua Fighter en 3D, caméra vue de derrière, et là tu dois vraiment placer tes mouvements et tes coups en fonction de ce que t'as envie de faire.
Voilà. Bon, je propose qu'on passe à la suite.
Ouais.
Mm-hmm. Ben, tu vas maintenant nous parler de Blizzard, qui se met à fond sur eSport?
Oui, bah quelque part c'est pas trop étonnant, mais donc ils montent une division eSport. Alors ils font pas les choses à moitié parce qu'ils embauchent du coup l'ancien PDG de la chaîne ESPN. Alors c'est en France c'est pas une chaîne trop connue, mais aux États-Unis c'est la chaîne qui donne le plus de sport. Et ainsi que le cofondateur de la MLG, donc Major League Gaming. Donc voilà, des gens du milieu.
Bon, et donc, gros, ils... l'un des plus gros tournois.
MLG. Oui, voilà. Donc ils font les choses, ils s'y lancent pas à moitié, donc ils vont monter une division, parce qu'ils sentent que l'e-sport aujourd'hui ça peut rapporter, notamment en plus eux avec certains jeux comme StarCraft qui est vachement joué, comme j'imagine maintenant Hearthstone et Heroes of the Storm aussi, ça va commencer à rentrer pas mal dans les compétitions e-sport. Et donc voilà, ils ont décidé d'investir là-dedans et de se lancer, parce qu'il y a sûrement beaucoup d'argent à se faire pour eux.
Alors pourquoi on vous a parlé cette news cette semaine? Parce que bon, fondamentalement, nous on n'est pas très e-sport, ça, soyons clairs. Mais je pense que c'est une news qui est intéressante quand même, parce que ça montre vraiment une évolution dans le média, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un média où, maintenant, tu as une branche, des joueurs qui sont vraiment des joueurs qui sont consacrés à l'e-sport, et où c'est devenu sérieux au point quand même où t'as des chaînes de télé qui s'intéressent au truc, quoi.
Enfin, c'est... Ah, mais de toute façon, enfin, moi je suis persuadé que d'ici les 5 ans à venir, on aura des matchs en direct à la télé. Aujourd'hui, c'est plus sur des plateformes type YouTube, Twitch, etc. C'est rarement à la télé ou alors en passant par Internet. Mais je pense que, alors, ça va peut-être être au départ des chaînes un peu spécialisées. Mais ça va arriver. Moi, je vois pas comment on pourrait y échapper. C'est sûr, ça va arriver.
Entendons-nous bien, hors Corée, hein.
On parle. Oui, bien sûr.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi sur, sur le fait que ça arrive à la télévision, des retransmissions de tournois d'e-sport.
Ouais. Bah, ça dépend, si tu pars de la France, je pense pas, mais aux États-Unis carrément.
Ouais, bah après, enfin, des chaînes dédiées qui sont consacrées à ça, genre, on va dire, par exemple en France, je sais pas, Game One ou une chaîne comme ça, tu as une chaîne consacrée aux jeux vidéo où ils peuvent faire des retransmissions, oui. Mais par exemple, ça arrivera jamais sur TF1, France 2, ce genre de choses-là. C'est déjà que les ils sont pas contents qu'on passe du temps devant nos consoles, devant nos PC, parce qu'on du coup on est plus devant la télé. Ils vont pas nous mettre un truc.
Mais tu vois, ben justement, est-ce que ça, c'est pas l'occasion pour les chaînes de télévision de nous sortir de nos consoles, enfin, tu vois, de retourner le problème, justement, de se dire, bah justement, puisqu'ils passent du temps devant leur console, ils veulent de la console, on va leur en mettre.
Ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression que qu'aujourd'hui, c'est ce genre de médias soit prêt à accepter de diffuser ça à des heures de grande écoute.
On est d'accord qu'aujourd'hui en France, c'est des vieux cons qu'il y a, donc effectivement, oui, mais dans quelques années, moi je demande à voir.
Oui, parce que enfin, on va prendre l'exemple aujourd'hui, les chaînes françaises, rien que pour le sport, on va dire les chaînes de base, elles donnent pas de sport. Ouais. Aujourd'hui, si t'avais pas beIN Sport, t'aurais quasiment plus de sport à la télé. TF1, ils donnent un match de foot, un match de rugby tous les 36 du mois. Enfin, c'est pas ces chaînes-là. Donc, si ça doit arriver en France un jour, ça va être au départ, c'est sûr, sur des chaînes spécialisées, jeu vidéo, etc. Après, c'est toujours pareil. Si ça prend, si ça grandit vraiment, pourquoi pas d'autres chaînes type Canal+, des chaînes privées, achèteraient pas les droits aussi. Il faut que ça prenne. Après, oui, ça va mettre un peu de temps. Ça va être au départ sur une chaîne spécialisée. Il faut voir ce que ça donne. Mais moi, ça m'étonnerait pas que dans quelques années, on y arrive. Vraiment. Alors, pas forcément en France tout de suite. Il y a d'autres pays qui seront là avant nous parce que nous, on est un peu.
L'Allemagne, par exemple.
On est un peu réfractaires à tout ce genre de choses, mais.
Ouais, l'Allemagne.
L'Allemagne, je pense que ça.
Voilà, type l'Allemagne, voilà.
L'Allemagne, États-Unis.
La Russie, l'Allemagne. Ouais.
Après, je sais pas. Je sais que les Chinois sont friands de jeux e-sport, genre comme LOL et tout ça. Mais en France, moi, je vois bien le genre au début, tu sais, les pourquoi pas dans d'ici 5 ans peut-être des reportages, voire même sur TF1 ou France 2, tu vois, genre voilà, je sais pas, Ben a gagné le tournoi e-sport de League of Legends, il est arrivé numéro 1, c'est un Français en plus, tu vois, ce genre de truc là, et après peut-être que ça va amener la chose. Mais
avec quand même la petite note beauf, tu vois, pour bien montrer que les joueurs c'est des beaufs, parce qu'il faut pas déconner quand on est sur TF1. Mais... bon, après à leur décharge, ça sera pas très dur pour eux de montrer que les amateurs d'e-sport sont des beaufs, parce qu'il y a quand même un sacré paquet de beaufs dans le lot, hein. Je me rappelle, c'était l'Iron Squid où quand il y avait une nana sur la scène, les mecs gueulaient à poil, enfin bref, dans genre beauf, ça se pose là, quoi.
Ouais, bah ça, je suis genre, tu vois, ils peuvent présenter le vainqueur, mais ils vont dire Alors voilà, Ben, champion national, qui a passé plus de 400 heures dans le mois sur son jeu favori. Il s'entraîne tous les jours, mais il n'a plus de vie sociale. Tu vois, en même temps, ils te font un reportage pour te dire voilà qui a gagné, et genre un truc, une émission limite entre Confession intime et Pascal le grand frère.
Et regardez d'ailleurs, il a pris un peu de poids là, Ben. Donc.
Et après, peut-être la musique bien triste.
En France, on a une mentalité qui est aujourd'hui qui est pas du tout en accord avec ça. Donc c'est clair que en termes de pays européens, on sera pas les premiers à faire ça. C'est faut pas rêver non plus. Quoi.
Mais par contre, j'ai l'impression que les choses changent un petit peu parce que on voit par exemple que il y a quand même des ministres qui s'impliquent un petit peu plus dans les médias jeux vidéo. Par exemple, je pense à Fleur Pellerin qui s'intéresse, même si elle fait pas toujours des bonnes choses. Au moins, ça a le mérite de s'intéresser à la chose. Et aussi, c'était une nouvelle candidate, je sais plus de quelle partie, qui était partie justement dans ces tournois e-sport et tout ça. Il y avait des événements qui étaient faits en France. Et elle voulait présenter ça à d'autres députés pour le fonds d'investissement sur le jeu vidéo et afin d'augmenter les apports, quoi.
Fonds d'investissement qui a un nom absolument...
Oui, c'est pour ça que...
Il s'appelle le FAP.
Le FAP JV.
Mais qui au ministère a eu l'idée de cette blague? Qui?
Sûrement quelqu'un qui ne parle que français.
Bon, là j'en peux plus, là.
Enfin, bref. ATH.
Oui.
Tu voulais nous parler de Square Enix, je crois.
Oui, je voulais parler de Square Enix parce que dans son rapport en ligne annuel, Square Enix a fait justement les prochains plans de l'avenir de la grosse firme japonaise. Il faut savoir que donc il y a eu le remake de Final Fantasy VII qui a été annoncé. Si vous n'êtes pas au courant, hein, je sais pas où vous habitez, mais apparemment Square Enix voudrait faire de plus en plus ce genre de remake là dans l'avenir. Car il faut savoir que voilà, Final Fantasy VII c'est le monument du jeu vidéo au Japon et même en Occident. Et ils souhaitent voir par la suite si ça fonctionne. Ils voudraient aller dans cette direction là en proposant d'autres remakes, d'autres licences de jeux qui avait fait le succès de Square Enix à l'époque. Et il faut savoir aussi que dans le lot, il y a aussi tout le catalogue Eidos, puisqu'ils ont récupéré le studio et donc ils ont les droits sur leur licence. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce genre d'annonce.
J'en pense que les remakes, c'est bien quand c'est exceptionnel et que t'as vraiment un jeu qui gagnerait à avoir un remake, genre Final Fantasy VII. Après, industrialiser la pratique comme ça, je suis très très dubitatif et j'ai de grosses réserves, quoi. Parce que tous les jeux ne le méritent pas et tous les jeux ne sont pas forcément intéressants. Alors Shadows, évidemment, on pense tout de suite au premier Deus Ex, hein. Là, ça pourrait vraiment être intéressant pour le coup. Mais de là à faire ce que Square Enix fait, c'est-à-dire sortir plein de jeux d'OSEF et les refaire aujourd'hui, je suis pas sûr de l'intérêt de la chose, quoi.
Je pense à peu près la même chose. Il y a des jeux qui le méritent, d'autant parce que les jeux ont mal vieilli, que parce qu'il y a une fanbase assez énorme derrière et ça vaudrait le coup. Mais typiquement, des Final Fantasy, alors si tu demandes aux gens, les gens vont tous te dire le 7, t'as peut-être une ou deux personnes qui vont te dire le 8, mais les autres jeux Final Fantasy, personne n'a rien à foutre. Qui ressortent aujourd'hui. Alors ils sont ressortis sur Steam, etc. Et après je sais pas les ventes, mais les refaire avec des graphismes beaucoup plus récents, faire un gros développement dessus, aujourd'hui j'en vois pas l'intérêt. Un jeu comme Final Fantasy VII, c'est attendu depuis je sais pas combien de temps. Enfin c'était voilà, tout le monde connaît l'histoire qu'il y a avec ça. De Deus Ex, pareil, si ça se faisait, ok. Mais le reste des licences, aujourd'hui, on te dit, on refait un Final Fantasy IX. Ouais, il y a certaines personnes qui vont être contentes, mais ça va être très limité. Et puis, enfin, même moi qui ai fait tous les Final Fantasy, qui aime beaucoup cette saga, il y en a quelques-uns qui auraient besoin, que j'apprécierais de refaire, mais ça va se limiter à aller à deux ou trois jeux, pas plus.
Oui, et puis après, honnêtement, est-ce qu'on préférerait pas aussi que
qu'ils fassent des nouvelles choses,
moyens sur des nouveaux jeux, quoi, tout simplement.
Bah alors là, je tiens à vous rassurer par rapport à ça, c'est que ils veulent aussi accélérer le développement de nouvelles licences, bien sûr. C'est ce qui a été dit dans le rapport annuel de Square Enix, et ils sont pas aussi fermés à la collaboration avec d'autres compagnies comme ils l'avaient fait avec Koei Tecmo sur Dragon Quest Hero. Et là, ils ont dit, on pourrait peut-être envisager de coopération plus large sur d'autres titres qu'on voudrait mettre en commun avec deux licences. Et mon avis par rapport à ce qui a été dit sur les remakes, moi je pense que ça peut être intéressant pour nous, en tout cas avec occidentaux, les remakes de jeux qui sont sortis au Japon mais que nous on n'a pas eu le, qu'on n'a jamais vu ou bien pas traduit et ce genre de jeu.
Oui, ça, mais du coup pour nous ça serait pas vraiment un remake parce que c'est un jeu qu'on, enfin qu'on n'a pas fait à l'époque.
Mais ça, est-ce que ça arrivera? Parce que enfin quand même si c'est des remakes, enfin ça coûte cher à faire mine de rien. Et est-ce que sortir un jeu qui n'a pas d'affect vis-à-vis des gens en Occident, ça a un intérêt commercial pour Square Enix? Moi, j'en suis pas persuadé.
Ça peut l'être si par exemple, je sais pas, on va dire Dragon Quest. Je dis ça parce que voilà, c'est la licence Square Enix qui me vient en tête. Dragon Quest 1, qui n'est jamais venu en Europe chez nous, ils le refont. Déjà, donc, t'es sûr d'avoir le public japonais dans la poche. Le public occidental, bah, il connaît la licence Dragon Quest parce qu'ils ont eu le 8 et le 9, je crois, le 9-10 en Europe. Donc là, ça pourrait être il nous balancera comme campagne marketing. Vous n'avez jamais connu le premier Dragon Quest, revenez le voir 20-30 ans après avec les graphismes en super HD, gameplay remis au goût du jour, etc. Et là, je pense que ça peut être aussi pas mal dans les deux sens, quoi, dans le sens de Square Enix et pour le joueur.
Je sais pas. Moi, je parce que ça coûte tellement cher à faire. Voilà, le jeu après, aujourd'hui,
c'est ce que j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, on parle de Final Fantasy VII, mais au final, à part l'histoire, c'est un jeu qui va refaire de A à Z. Ouais. Donc c'est un nouveau jeu quelque part.
En après, plus, il faut voir ce qu'il entend par remake, hein, parce que si remake, c'est faire un jeu vite fait, comme ils ont l'habitude de le faire là sur certaines genre tous les Final Fantasy qu'ils ont ressortis sur DS en 3D dégueulasse, oui. Alors là, c'est pour le coup, ça m'intéresse pas du tout, mais.
De toute façon, le FF7, ça va être un gros test pour eux, parce que s'ils passent pas ce test-là, il y en a aucun qui marchera. Alors, je vois pas comment pas se rater, mais rien que par rapport aux gens qui connaissent la licence, je pense qu'ils auront énormément de ventes sur le jeu. Même si c'est quelque part, si c'est raté pour les fans. Après, voilà, il faut voir ce qu'ils vont en faire. S'ils sortent un jeu vraiment refait de A à Z et avec de la qualité, que ça soit en termes de gameplay aussi, parce qu'il va avoir un gros travail d'adaptation pour des joueurs plus modernes, parce que aujourd'hui le tour par tour, on sait que ça plaît plus aux nouveaux joueurs. Donc s'ils arrivent à ressortir quelque chose comme ça qui plaît quasiment autant aux anciens, même si ça sera pas possible, et aux nouveaux joueurs, pourquoi pas voir arriver voilà quelques autres jeux. Mais après, comme j'ai du mal à croire qu'une licence jamais sortie, ils puissent refaire un jeu et te le vendre 60 ou 70 balles en France et que ça fonctionne. En fait, sur un FF7, ça fonctionnera rien que par l'affect. Sur un jeu qui est moins connu ou qui n'est même pas sorti, ils peuvent pas. Enfin, pour moi, ils peuvent pas mettre un prix aussi élevé.
Qui n'est pas sorti en Europe. Parce que
en Europe, je parle bien sûr. Ouais. Je parle en Europe.
Il y a eu combien de jeux Square ou Enix, enfin Squaresoft à l'époque ou bien Enix, qui sont sortis chez eux, mais qui ont eu un succès monumental, ouais, mais qui n'a jamais été édité en France.
ATH, tu oublies un truc dans ton raisonnement, c'est que les Japonais ne jouent plus sur console. C'est ça le problème, c'est que il y a une dichotomie entre le marché occidental et le marché japonais. Les Japonais jouent sur portable. C'est ça le gros souci, c'est pour ça que les mecs maintenant ils te font des jeux où ils les sortent à la fois sur Vita et sur PlayStation 3 et sur smartphone, parce que ils espèrent que la version console se vendra en Occident et que la version portable se vendra au Japon. Ce système-là cause de gros problèmes parce que du coup, en termes de développement, si tu veux, ça demande beaucoup de ressources, parce que du coup tu dois faire deux jeux à chaque fois. Et ça, c'est très compliqué.
Ah non, mais regarde, Final Fantasy VII, il sort que sur PS4 et PC, je crois. Enfin,
oui,
je
mais plus... encore une fois, Final Fantasy VII, c'est un cas très particulier.
C'est un cas très particulier.
Final Fantasy VII, c'est le succès assuré. Je veux dire, ils prennent pas de risques là-dessus, quoi. Mmh. C'est ouais, ça mais que je veux dire.
Ce que je veux dire, moi, par là, c'est que quand tu vois le Dragon Quest Heroes qui a fait un carton au Japon, tu peux même pas imaginer. Tu te dis que s'ils ressortent des jeux pour les Japonais sur la console, sur la PS4 ou la Xbox One, enfin la Xbox One ne se vend pas au Japon mais on s'en fout, ça peut faire quelque chose de, ça, pour moi ça peut être quelque chose de vraiment, voilà, ça joue sur la nostalgie et tu sais très bien, on sait très bien que la nostalgie ça fait vendre aussi. Après voilà, après il faut voir ce que ça va être les remakes comme on a dit, parce que la conférence E3 de Square Enix le 3 2015, c'était des remakes, je crois que c'était le premier Secret of Mana qui avait été montré. Au début, on était content quand il avait écrit Secret of Mana, et puis quand on voit le jeu final, on se dit ouais, bon, autant jouer à l'original quoi, parce que c'est vraiment moche ce que vous avez fait. Moi je veux que s'ils font des trucs, en tout cas moi ça serait intéressant d'avoir des jeux que j'ai jamais joué de chez moi, parce que comme tu sinon si c'est pour jouer à Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, en HD et tout ça, ça vaudra pas le coup pour moi. J'ai déjà fait le jeu à l'époque, je m'en rappelle très bien de l'histoire. Ok, ça va être plus joli, ça va être plus beau, il y aura des doublages. Mais à part ça, qu'est-ce que le jeu apporte en plus?
Ok, bon. Et on va terminer sur une petite discussion sur les coûts de développement, n'est-ce pas, des jeux vidéo. Pourquoi j'ai voulu parler de ça cette semaine? Parce qu'il y a eu un article qui est sorti récemment sur Eurogamer. Un article sur le jeu qui est actuellement en financement sur Indiegogo, qui s'appelle Indivisible. Ce jeu, grosso merdo, c'est un espèce de mix entre Valkyrie Profile et Metroid. Enfin voilà, il y a un système, des maps à la Metroidvania et un système de combat à Valkyrie Profile. Donc forcément, quand on parle de ça, vous savez, je suis fan de Valkyrie Profile, donc ça m'attire, et ça m'attire d'autant plus que le jeu est super beau sa race. C'est un jeu qui a un petit souci, parce que il demande $1,500,000, hein, ce n'est pas rien. Et que, forcément, quand tu demandes ce prix-là, les gens posent des questions. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que dans un podcast, les personnes qui sont derrière ce jeu se sont plaintes du fait qu'elles avaient un peu le sentiment que parce qu'elles avaient été honnêtes vis-à-vis du prix qu'elles demandent, parce que, je veux dire, $1,500,000, quand tu veux faire un jeu et que tu n'as pas d'éditeur derrière, c'est rien du tout. Voilà. En tout cas, un jeu minimum ambitieux. Donc, ces personnes-là avaient le sentiment, si tu veux, que parce qu'elles n'avaient pas fait comme certains studios qui, en gros, demandent $500,000, mais qui, en vrai, en ont besoin de 4 millions et, en plus, ont un éditeur derrière, ben, elles avaient plus de problèmes que ces studios-là, en fait, tout simplement. Et que, en gros, le système tel qu'il est actuellement, à savoir Kickstarter, Indiegogo et compagnie, on en est arrivé à un point où, quand tu demandes le véritable coût d'un jeu, tu ne peux pas te faire financer parce que les gens n'ont pas la notion de ce que coûte vraiment un jeu. Alors déjà, je voulais vos réactions par rapport à ça.
Bah ouais, bon, je suis d'accord avec la dernière partie, c'est qu'on est tellement faussé par toutes ces campagnes Kickstarter, certains qui demandent 5 millions, tu sais pas exactement pourquoi, certains qui demandent 250 000, alors que quand tu vois les images du jeu, tu te dis c'est pas possible de faire un jeu avec si peu d'argent, puis nous, on est un peu dans le jeu vidéo, mais les gens qui sont un petit peu moins, ils savent pas combien ça coûte, même nous, des fois, sur certaines choses, on a du mal à réaliser combien coûtent les personnes, rien que les salaires, etc. Est-ce qu'il y a du financement derrière? C'est vrai que c'est difficile. Et comme tu dis, aujourd'hui, si un studio, enfin, ou un indé demande tant pour un jeu et que c'est vraiment la totalité du besoin en financement, on comprend pas. On se dit c'est trop cher, il y en a qui avec beaucoup moins font des jeux beaucoup plus jolis, c'est ce manque de transparence. On en a parlé avec Shenmue, il y a eu des débats parce qu'il y a eu une campagne Kickstarter, on a su après qu'il y avait je sais pas combien d'investisseurs derrière, ils ont refait ils auront un compte PayPal pour qu'on leur donne de l'argent. Enfin ça devient un peu n'importe quoi et du coup pour les autres qui ont moins de renommée qui demandent 1,5 million là, c'est ça ?
1,5 million.
Ce qui est pas en soi énorme pour faire un jeu, on leur dit c'est beaucoup trop, vous y arriverez jamais. Et d'ailleurs ils en sont à même pas 500 000 je crois ils ont eu sur leur campagne Indiegogo. Enfin c'est
ils
en
sont 21 jours.
Voilà, enfin comme on a déjà dit ici, que ce soit Indiegogo ou autre plateforme, c'est dans les premiers et derniers jours que ça marche, à moins qu'il y ait un gros coup de pub au milieu.
Après mais ils ont cherché la difficulté en allant sur Indiegogo. Très
voilà, en plus ils n'ont pas choisi Kickstarter comme plateforme, ce qui aide pas forcément aussi. Mais voilà, c'est un jeu qui va avoir vraiment du mal à se financer, alors que quand tu le vois, tu te dis, enfin c'est un jeu qui le mériterait.
Et surtout, je pense que on en arrivait à un stade où il y a une espèce de dichotomie, c'est-à-dire que pour arriver à se faire financer, avec
faut avoir un studio qui te finance derrière déjà.
Non, mais c'est surtout quand tu veux te faire financer et que tu demandes cet argent-là, 1,5 million, il faut avoir du concret à montrer. Or, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme ils ont ultra polish leur campagne, parce qu'il faut leur reconnaître une chose, c'est qu'ils ont conscience que c'est difficile. les gens, en fait, ont l'impression que le jeu est quasiment terminé. C'est cette dichotomie-là à laquelle on arrive, c'est-à-dire que, en gros, les gens se disent « Mais vous n'avez pas besoin d'argent, parce que, regardez, votre jeu, il est ultra polish. » Voilà. Alors, par contre, moi, il y a un truc où je voudrais nuancer, parce que c'est un truc où j'ai eu pas mal de débats récemment sur Canard PC avec certaines personnes, etc. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que si les gens savaient combien coûte un jeu, est-ce que le jeu serait quand même financé si les gens avaient la notion, si tu veux, de ce que coûte un jeu? Est-ce que là, les 1,5 million, ils les auraient déjà atteints?
Moi, je pense pas.
Je
pense pas que les... comment dire? Déjà parce que premièrement, il y aurait eu, enfin, il y aurait beaucoup de gens qui demanderaient la transparence du studio parce qu'ils diraient on n'est jamais vraiment à 100% sûr de ce qu'ils nous disent.
Ouais, parce qu'il y a un problème de confiance voilà. sur cette plateforme déjà.
Il y a un problème de confiance sur cette plateforme. Et comme tu l'as dit, quand tu vois le prototype de la démo, parce qu'il y a une démo qui est jouable, qu'on peut télécharger sur leur site et on peut y jouer déjà. Quand tu vois à quel point c'est polish et tout ça, les gens ils peuvent très bien se dire, comme tu l'as dit, ouais, mais attendez, votre jeu il est déjà super bien polish. Comment ça se fait que vous demandez autant d'argent? Les 1,5 million, c'est après il faudrait rentrer trop dans les détails parce qu'ils vont dire les 1,5 million, qu'est-ce qu'ils vont payer exactement? Donc il y aura les salaires, ok, les salaires c'est 1 million. Je sais pas, après il y aurait la facture d'électricité, enfin tous les trucs dont le studio a besoin pour vivre. Et là tu te dis, oui, mais moi je vous crois pas, ou bien enfin il y aura des doutes et ou bien il faudrait que le studio s'investisse tellement et soit tellement transparent pour que ça soit pour que y a une réussite quoi.
Alors pour moi, en plus de ce qu'a dit ATH, il y a un autre souci, c'est que je suis convaincu personnellement que le système tel qu'il est conçu actuellement, c'est-à-dire que en gros Kickstarter, Indiegogo et compagnie, c'est un système où si le studio se plante, bah tu l'as dans le cul quoi. Parce que je veux dire, tu vas pas porter plainte pour 30 euros, à un moment donné, faut arrêter de déconner, quoi. Et qu'aux États-Unis que tu vois ça. Donc, ça veut dire que déjà, à la base, dans ce système, si tu veux, tu as un public extrêmement limité qui est prêt à financer les jeux, en fait. Pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire qui fait que ce système est fondamentalement déficient, en tout cas s'il veut se poser en alternative par rapport au financement traditionnel. C'est que pour financer les jeux, bah c'est pas possible, parce que si vous voulez financer la totalité des jeux qui sont actuellement disponibles dans les plateformes de financement participatif, avec les vrais coûts des jeux, ce serait pas possible, parce que le public, fondamentalement, il est très limité, et ce public-là, il a pas forcément que ça à financer, si tu veux. Je vais prendre mon cas personnel. J'ai une 40aine de jeux financés sur Kickstarter et compagnie. Donc, vous voyez, a priori, je suis quand même quelqu'un qui finance pas mal ce type de projet. Je suis fan de Valkyrie Profile. J'adore les Metroidvania. Donc, a priori, je suis le public cible de cette campagne. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On est à la fin d'année. J'ai 3-4 jeux que j'ai envie d'acheter en ce moment. Actuellement, là. Et pas des jeux qui sortiront dans 3 ans, hein, des jeux qui sortent maintenant. Est-ce que vous croyez que je vais privilégier un jeu qui va sortir dans 3 ans à un jeu auquel je vais jouer dans 2 mois ou dans 1 mois?
Bien sûr.
Tu vois, enfin,
c'est sûr.
Est-ce que vous voyez vous identifiez le problème un peu?
Bah
et,
oui.
Et moi, si tu veux, enfin, je suis le public du truc, quoi. Alors, imaginez un peu le mec qui s'intéresse à peine au financement participatif, quand bien même ce mec se dirait, ok, ce jeu, il coûte 1,5 million, ils sont raisonnables, c'est le coût de développement d'un jeu, ils ont parfaitement raison, c'est formidable. Est-ce que ce mec va financer le jeu quand même, alors qu'il a une chier de jeux qui sont déjà disponibles dans le commerce, auquel il peut jouer, là, tout de suite, maintenant?
Bah, moi, c'est exactement mon cas à moi, on va dire. Moi, c'est... si j'ai envie de jouer à un jeu, pourquoi je vais me faire chier d'acheter à financer un jeu qui va sortir dans 3-4 ans, ou je sais même pas quand est-ce qu'il va sortir, parce qu'il y a jamais de date dans ce genre de choses-là, déjà. Ou bien il y a des dates assez floues, genre fin d'année 2017, fin d'année 2018, ou bien... que sais-je.
Bah, ça fait partie des allèles du développement, voilà. De toute façon. Ça sert à rien de donner des dates, à un moment donné, je veux dire, si c'est pour pas les respecter.
Voilà, mais des fois, il donne une estimation plus ou moins proche.
Qui ne sont jamais respectées.
Après, moi, je vais me dire, voilà, à part le mec qui veut soutenir le projet parce que ça le touche, ou bien qui aime bien les gars parce qu'ils ont déjà fait du bon travail et tout ça. Pourquoi je vais attendre je vais donner de l'argent et finalement voir le jeu si il sort dans 3 ans, et comme ça, si le pire de ça, si le jeu me déçoit, j'aurais attendu pour rien entre guillemets, alors, enfin j'aurais attendu pour être déçu. Alors que là il y a un jeu qui va coûter 10 euros, je vais l'acheter, et puis s'il me plaît tant mieux, s'il me plaît pas tant pis, mais au moins voilà, j'aurais le jeu fini, j'aurais pas eu besoin d'attendre autant de temps. Ça se trouve même il y a des gens qui financent mais qui oublient carrément qu'ils ont financé un jeu parce que ça fait tellement longtemps qu'il est dans les
normes. Souvent ça, hein. Ça arrive très souvent.
Donc voilà, c'est pour moi, c'est je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Tyran, là.
Ben,
bah c'est pour revenir sur les derniers points là de sortie de jeu, c'est un peu le serpent qui se mord la queue du coup avec ces projets de financement participatif. C'est que un studio qui n'a pas d'investisseur a besoin de l'argent pour faire un jeu, mais un jeu qui va sortir que dans 2 ou 3 ans, par exemple, s'ils en sont au début du dev. Les mecs qui veulent le financer, il y a ceux qui disent moi j'apprécie ce jeu mais j'ai envie d'y jouer assez rapidement, donc je vais pas le financer parce que j'ai d'autres types de jeux que je vais faire maintenant. Ou alors après c'est les gens qui croient en un projet pour différentes raisons et qui vont se dire je le finance et ça se trouve j'irai jouerai même jamais une fois qu'il sera sorti. Donc c'est un peu compliqué de pour avoir une certaine transparence en se disant on va sortir un jeu dans 2 ans mais on a besoin de voir d'argent tout de suite.
Ouais.
Voilà. C'est assez compliqué à ce niveau-là, et c'est pas parce qu'ils vont dire, c'est pas parce qu'il y aura des chiffres exacts, même si détaillés, on a 10% de la campagne qui va sur les salaires, 20% qui vont sur le marketing, etc., que ça y changera quoi que ce soit. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le financement participatif, ceux qui financent le plus, c'est pour soutenir un studio ou une personne, et pas forcément pour avoir le résultat d'un jeu tout de suite, en fait.
Voilà. Ou alors les gens financent du rêve, Star Citizen.
Exactement. Sinon, ça devient un peu du n'importe quoi. Et sinon, c'est plus parce que on a eu un affect avec une campagne qui a été bien faite, qu'on va retrouver un gameplay qui nous a plu sur un vieux jeu, quelque chose comme ça. Ou alors parce qu'il y a un nom qu'on apprécie et qui va aider au jeu, que ça soit à l'écriture, enfin à la réalisation. Aujourd'hui, c'est en tout cas pour moi et pour vous aussi visiblement, enfin pour Tyran en tout cas, c'est ce qui va nous faire participer à un jeu, qui va nous faire donner de l'argent. Et c'est pas forcément en se disant ah ouais ce jeu je l'attends vraiment, comme les gens vont attendre FF7 en se disant ah oui celui-là il faut vite qu'on l'ait, etc. C'est un jeu qu'on va financer, peut-être qu'on y jouera un jour. Et je pense que Tyran, tu disais une quarantaine de jeux. Je suis sûr que si on prend dans 2 ans, une fois que ces 40 jeux seront sortis, t'auras joué peut-être quoi, une dizaine maximum?
Je pense la moitié, je pense, très honnêtement. Mais c'est vrai que j'aurais pas joué à tout parce que j'ai plein de jeux à faire, quoi.
Oui, voilà. Il
y en a qui seront très décevants quand ils vont sortir.
D'autant plus, on sait pas, comme l'a dit ATH, on sait pas ce que ça va être au résultat du développement dans 2 ou 3 ans. D'ici là, on aura des jeux qui vont sortir, surtout qu'il y a certaines périodes où il y a beaucoup de jeux qui sortent, là, notamment en fin d'année. Donc, comme disait Tyran, je vais pas financer un jeu maintenant alors que j'en ai déjà 3 ou 4 dans ma bibliothèque et j'en ai encore 2 ou 3 qui vont sortir d'ici Noël que j'aimerais faire. Donc, c'est vrai que c'est compliqué par rapport à ça. On le dit souvent ici, mais Kickstarter ou autre plateforme, c'est du soutien à une personne ou à un studio. C'est pas un achat d'un jeu. Faut vraiment faire la différenciation.
Et surtout, moi, je pense qu'aussi, ce qui marche mieux, peut-être que un jeu, par exemple, le jeu de Indivisible, ce serait les jeux qui proposent une bêta assez proche, en fait. Je pense que ce genre de jeu-là, il y a au moins quelque chose que tu sais que tu vas avoir dans 1 mois ou 2. Et les gens, ils disent, bon, je vais payer, comme ça, je vais avoir un retour sur ce que j'ai payé, et je pourrais y jouer d'ici là. Et je pense que ça doit mieux marcher que les jeux, tu vois, un jeu qui se fait par un jeu très scénaristique, où tu joues tout seul. Ça, je pense que l'apport de la bêta, c'est un vrai plus, quoi.
Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Après, le problème est que certains studios, enfin, ou certaines personnes qui sont sur Kickstarter ont besoin de cet argent même pour faire le début du jeu.
Ouais,
c'est ça le problème.
Il y a des, autant, comme on l'a dit, il y en a qui viennent avec déjà des investisseurs derrière, type, c'était comment il s'appelle ce Castlevania-like, là? Bloodstain?
Bloodstain, ouais.
Voilà. Qui venait, qui demandait je sais pas combien, mais qui avait déjà de l'argent derrière, qui pouvait montrer des choses, des vraies choses, etc. Il y en a eu plein, ou même qui, il y a eu ce JRPG français, là, Edge of Eternity, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Qui, pareil, qui proposait déjà une démo au moment où ils ont lancé leur financement. Donc, certains ont déjà de l'argent. Mais pour un petit mec dans son coin qui a pas du tout d'argent, il demande pour faire une première partie du jeu, et pourquoi pas après lancer une démo, mais voilà, c'est tout le monde ne peut pas se permettre, même si je suis d'accord avec toi, ça serait la meilleure solution de proposer une alpha, une bêta, etc.
Ouais, mais ça c'est pour les jeux multijoueurs.
Pour attirer le joueur.
C'est pour les jeux multijoueurs ou bien pour des MMO, tout ça. Mais pour un jeu solo, comme un Bloodstained, tu peux proposer une démo, mais encore, je suis pas sûr qu'une démo ça soit suffisant, quoi. Tu vois, une démo c'est sympa, mais bon.
Non, ça serait très limité, voilà, ouais, je suis d'accord.
Alors que pour un jeu qui évolue constamment, là, ça peut apporter quelque chose, je pense. Et il y a aussi, tu parlais des gens qui avaient des investisseurs dès qu'ils arrivaient sur Kickstarter ou bien sur Indiegogo ou n'importe quelle plateforme. Mais il y a aussi des gens, il faut savoir qu'ils font des démos à perte aussi. Ils proposent un prototype qu'ils mettent sur ces types-là, mais pendant tout ce temps-là, ils se financent pas, ils gagnent pas d'argent. Donc, clairement, ils montrent un truc, quelque chose, mais ils font ça à perte et ils perdent de l'argent dès qu'ils commencent leur campagne, en fait.
Bah, de toute façon, une campagne, c'est une perte sèche, hein. Je veux dire, tu mobilises des gens pour faire un truc, tu polishes ton prototype, enfin voilà quoi, c'est comme une présentation à un éditeur au final, c'est pareil, hein. Si l'éditeur te dit non, bah tu l'as en
vache. Bah, t'auras perdu ton temps, et puis alors que là, si après ça peut être à double tranchant, quoi. Si la campagne est un succès et t'as plus que ce que t'espérais, là tu seras gagnant, quoi.
Et au final, si tu veux, pour moi là, on en arrive vraiment aux limites du système tel qu'il est conçu actuellement. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, le problème, il est le suivant. Comme c'est un système basé sur la confiance, essentiellement, c'est un système qui intéresse très peu de monde. Tout simplement. Et donc, comme c'est un système qui intéresse très peu de monde, ben, les rares personnes qui sont en position de financer ne peuvent pas financer tous les jeux. Donc, on en arrive au résultat où Kickstarter n'est pas un modèle alternatif par rapport au financement traditionnel, c'est un complément de revenu, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, Kickstarter, c'est le revenu qui va te permettre, par exemple, de faire ton jeu pour aller en Early Access, tout simplement. Et en gros, aujourd'hui, c'est ça qui est Kickstarter. C'est pour ça aussi que je pense que, malheureusement, les gens qui se disent que s'ils sont honnêtes, si les gens avaient conscience du coût de développement, ça marcherait. Mais non, ça ne changeait strictement rien. Le problème de Kickstarter au jour d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un système alternatif. C'est un truc qui te permet de démarrer. D'ailleurs, c'est pour le coup, ça porte très bien son nom, hein, Kickstarter.
Ah oui, oui.
Voilà, si on veut que ça change, moi, ça c'est ma conviction personnelle, je pense qu'à minima, il faut un système où il y a des garanties. C'est-à-dire que il faut que tu dises aux gens, si tu finances un jeu et que ce jeu ne sorte pas, tu seras remboursé. Voilà. Je pense qu'il faut l'aborder comme ça. En tout cas, si on veut en faire un vrai modèle économique alternatif, parce que sinon ça marchera pas. Et c'est pas la peine de se raccrocher à des faux espoirs comme quoi si les gens ont conscience du coût d'un jeu, ça va être magique et ça va marcher. D'ailleurs, la preuve que les gens n'en ont rien à foutre au final de ce que coûte vraiment un jeu, Star Citizen. Ce projet, je veux dire, on est d'accord, ils ont plus besoin d'argent.
Non, et ils continuent à en avoir.
Ce projet, tu vois, c'est une machine à rêve, en fait. Et c'est le projet typique qui montre que, sur Kickstarter, ou sur n'importe quelle méthode de financement participatif, les gens, tu sais, si tu leur vends du rêve, finalement, le coût d'un jeu, ils s'en foutent, hein. C'est pas
totalement
ça qui compte. Si tu as la machine marketing derrière pour vendre le bousin, mais le vrai coût d'un jeu, les gens s'en battent les couilles.
Bah oui.
Et regardez Star Citizen, putain, les mecs, ils sont à plus de 80 millions de dollars. Alors qu'ils en ont plus besoin de cet argent.
Ils en ont demandé combien?
Ils vendent des vaisseaux comme ils vendent des bêtes. Ils sont à plus de 80 millions
ouais,
de dollars.
Ouais, mais ils en ont demandé combien à début? 2 millions, c'est ça?
Non, alors, en fait,
c'est
plus compliqué.
Fois, ouais. Oui.
Au début, en fait, ils faisaient une campagne de financement sur leur site.
Ouais.
Où il n'y avait pas d'objectif, si tu veux. Et quand ils sont arrivés sur Kickstarter, ils avaient déjà 10 millions de dollars, je crois.
D'accord.
Ou 8.
Ouais.
Un truc comme ça. Ça veut dire quand même qu'à la base, les mecs ont réussi à récolter plusieurs millions en vendant du rêve, quoi. Sans être sur Kickstarter.
Ouais.
En gros, les mecs ont atteint plusieurs millions rien qu'en vendant du rêve, quoi. Mm-hmm. Si ça, ce n'est pas la preuve par A plus B que, certes, il y a des gens qui râlent sur les forums, mais au final, c'est vraiment pas ça le point bloquant, je sais pas ce que c'est.
Pour moi, il y a beaucoup de choses même, tu vois, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Shenmue 3. Shenmue 3, moi, il faut savoir, c'est un jeu que j'ai pas backé du tout, même si c'est un jeu qui, pour moi, c'est un petit peu le jeu du cœur, quoi, qui, tu sais, un peu le jeu maudit, qui n'a pas eu le succès mérité, enfin, ce genre de choses-là.
Bah, en plus, Yu Suzuki, tu sais, le mec, t'as vraiment envie de soutenir parce que, putain, le mec, il s'en est pris plein la gueule, quoi.
Voilà. Bref, hein. Et moi, j'ai pas soutenu Shenmue 3, financièrement, parce que je me dis que voilà, le jeu ça peut être une daube, ça peut être voilà, ça peut être quelque chose que je n'attends pas du tout, enfin complètement à contre-courant de ce qui pour moi était Shenmue. Donc j'attends de voir vraiment le résultat quand il va sortir, et là si je suis d'accord, bah oui, je suis d'accord pour donner mon argent à Suzuki et son studio de développement pour que pour avoir remercié, pour avoir fait le jeu, et puis que je puisse y jouer moi aussi. Mais là, pour l'instant, moi, je suis... c'est vrai que ce genre de choses-là, je suis très perplexe et très sceptique quant à financer un jeu, quoi.
Voilà. Bon, pour résumer en gros notre point de vue, parce que là, on l'a pas mal détaillé, le financement participatif, ça ne marche pas, pas parce que les gens se disent « Oh mon Dieu, ce jeu demande trop d'argent par rapport à ce qu'il coûte vraiment. » Non, non, ça marche pas parce que les gens pensent que le financement participatif, c'est de la merde. Pour être cru. Pourquoi les gens vont s'emmerder à faire ce qui ressemble à une précommande, sans les garanties de la précommande, 3 ans à l'avance?
Voilà.
Moi, je suis désolé, à un moment donné, pour moi, la problématique, elle est là. Le reste, c'est du brassage d'air, pour moi. Certes, ça serait bien que les gens aient conscience du développement d'un jeu, mais si ça, c'était vraiment le point qui pose problème pour empêcher les jeux de se financer à millions, je veux dire, Star Citizen, il n'en serait pas là où il est aujourd'hui, quoi, tout simplement.
Bah, il aurait beaucoup moins d'argent, c'est clair, que de ce qu'il a obtenu, hein. Parce que, enfin, si les gens, ils disaient, bon, bah, c'est bon, enfin, on le voit, combien de fois on le voit sur les gens, même sur Kickstarter, quand il y a des stretch goals qui sont atteints, même le plus haut stretch goal est atteint, normalement, tu te dis, bah, c'est bon, on n'a plus besoin de financer parce que le stretch goal maximum est atteint. Mais combien de jeux ont dépassé leur stretch goal maximum et les gens ils continuent à donner parce que voilà, c'est juste parce que c'est telle personne qui est connue, et voilà, c'est ça vend du rêve, et les gens disent ah bah tiens, je vais lui donner mon pognon parce que j'ai envie d'avoir ça. Et alors que à côté, il y a des jeux qui crèvent la dalle, qui ont toujours pas bougé depuis du début jusqu'à la dernière journée du Kickstarter, mais juste parce que voilà, les gens ils ça leur vend pas du rêve, c'est pas un nom connu, enfin, il y a plein de raisons qui rentrent dans l'équation, c'est sûr. Un jeu peut être financé à plus que de raisons et un autre il peut avoir rien du tout. Alors que finalement, j'ai envie de dire, si les deux auraient leur prix qui serait affiché, enfin le coût du développement, pour moi ça changerait mais vraiment absolument rien du tout à l'équation, quoi.
Alors moi franchement, les gars d'Indivisible, je leur souhaite bonne chance parce qu'ils vont en avoir besoin, hein, mais vraiment, mais enfin qu'ils perdent pas leur temps sur ces questions-là, parce que très honnêtement, je pense que s'ils veulent réussir, là, c'est pas sur ces questions-là. Enfin, c'est une perte de temps sèche de se consacrer à ces questions-là. La vraie question, pour moi, actuellement, s'ils veulent réussir leur campagne, c'est est-ce qu'ils vendent du rêve aux gens? C'est malheureux à dire, hein, parce que Dieu sait qu'il y a des projets qui sont très sérieux, qui sont très carrés et qui mériteraient d'être financés et qui ne le sont pas parce que leur trailer ne vend pas assez de rêve. Mais pour moi, tu vois, ça, c'est un jeu à 500K, en fait. C'est-à-dire que ils ont un prototype qui tombe bien, c'est en 2D, c'est super joli. En plus, les gars, ils sont relativement sérieux. Ok, 500 000 $. Mais honnêtement, 1 500 000, je serais très étonné s'ils y arrivent. Et s'ils y arrivent, en tout cas, c'est parce que sur les réseaux sociaux, il y aura des gens qui auront soutenu le projet, qui en auront parlé un peu partout, et que la mayonnaise aura pris, et que ça aura fait le buzz. C'est malheureux à dire, mais actuellement, si tu veux faire ce genre de score sur Kickstarter, en fait, il faut que tu touches au-delà de la base de personnes qui, comme moi, financent régulièrement des projets. Il faut que tu vendes du rêve à des gens qui ne financent pas des projets sur ce type de plateforme, en fait. Et ça, pour y arriver, c'est très compliqué.
Après, si eux, ils demandent cet argent-là, c'est qu'il y a une raison. Tu vois?
Ah non, mais ça, on le remet pas en cause. C'est pas du tout, je remets pas du tout ça en cause, attention, hein, mais... je suis persuadé qu'ils en ont besoin, cet argent. Je dis juste que le financement participatif, pour arriver à ces sommes-là, c'est peut-être pas le moyen de financement idéal.
Malheureusement. Ouais, c'est vrai que...
Malheureusement, l'outil qu'ils ont choisi pour faire ça n'est peut-être pas adapté. C'est ça que je veux dire. Et c'est pas une question
De qualité de jeu ou de
qualité de jeu ou de qualité de projet ou... et aussi, c'est aussi ça que... L'une des raisons qui fait que j'ai pas mal débattu avec les gens de Canard PC sur les forums du site, c'est que en gros les gens disaient il faudrait que les développeurs demandent de véritables coûts des jeux. Mais moi je leur disais mais vous êtes suicidaires vous. Enfin mais jamais ils ne se feront financer s'ils demandent le véritable coût des jeux et qu'ils cherchent à se faire financer uniquement par ce biais en fait. C'est peut-être regrettable et moi Dieu sait que je le retrouve regrettable ça. Mais malheureusement, je pense que c'est intégré par la plupart des studios de développement aujourd'hui. D'ailleurs, discuter avec des développeurs français, ils disent tous quasiment la même chose, à savoir que Kickstarter aujourd'hui, c'est au mieux un complément de revenu, et puis basta, quoi. Point. Et si vous cherchez à vous financer entièrement par ce biais, ben good luck à chef quoi, parce que c'est quasi suicidaire quoi.
Mais j'avais même entendu certains développeurs qui disaient que Kickstarter finalement ça payait que la campagne marketing du développement d'un jeu.
Ouais, alors ça, eux par contre, je veux pas les voir sur Kickstarter parce que ils servent à rien et enfin bref, voilà. C'est, ils n'ont rien à faire là parce que autant tu vois, je pense que l'outil a encore une certaine utilité si il permet à des projets de se lancer quoi entre guillemets, alors pas d'arriver jusqu'au bout hein, mais au moins de se lancer. Par contre, si c'est juste pour faire une campagne marketing, désolé, moi ça m'intéresse pas.
Non mais ils l'ont pas dit comme ça. Ils l'ont dit que l'argent qui était récolté, en gros, ça correspondait au coût de la campagne marketing qu'ils avaient dépensé.
Et oui, mais en gros, ils l'abordent comme un outil marketing, quoi.
Voilà, c'est exactement le cas de Ikagarashi là pour son Metroidvania Bloodstained, qu'on en parlait tout à l'heure.
Voilà.
Il avait fait déjà appel à une campagne marketing, enfin une société de spécialisée dans le marketing pour mettre son jeu sur Kickstarter et faire un peu la promotion et tout. Bah le truc ça a énormément bien marché et il avait derrière un éditeur qui l'a dit bon moi je suis prêt à financer ton jeu si tu me ramènes les 5 millions et au final les 5 millions il les a atteints parce que c'est le deuxième jeu qui a atteint le plus gros budget sur Kickstarter juste derrière Shenmue 3. Tu vois donc lui les 5 millions ils lui ont juste servi à alpaguer un éditeur en fait.
Enfin il l'avait déjà à la base l'éditeur, c'est juste que l'éditeur en fait lui demandait
des garanties. Voilà.
Voilà.
Mais donc les 5 millions, tu vois bien que c'est juste pour dire hey, mec, tu vois, il y a des gens qui sont intéressés par Bloodstained, donc maintenant tu vas méditer puis voilà, moi j'ai déjà 5 millions donc
Voilà, d'où le fait qu'on parle de moins en moins de Kickstarter ici parce que ça. Voilà. Parce que pour moi la seule chose qui justifie le financement participatif c'est de filer un coup de main à des studios qui n'ont pas d'autres moyens quoi en gros. Enfin, je suis désolé, je suis pas là pour prouver à un éditeur qui a un intérêt pour un projet. À un moment donné, je veux bien être con mais il y a des limites quoi. Je préfère acheter un jeu qui est dans le commerce. Hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour répondre à Herman, voilà pourquoi je n'ai pas envie de parler de Kickstarter en ce moment. Parce que la manière dont ça se déroule, ça me casse les burnes, mais grave quoi. Et j'ai pas envie de cautionner ce truc, quoi. Mais vraiment pas, quoi. Là, on parle de Indivisible parce que pour le coup, c'est des mecs qui sont honnêtes dans leur démarche et tout. Mais le problème, c'est que pour faire le tri entre les projets qui sont honnêtes dans leur démarche et ceux qui sont juste là parce que ils ont besoin de nous pour convaincre un éditeur, c'est compliqué, quoi.
Après pour moi, en fait, la démarche.
Oui, non, c'est malheureux, on est d'accord.
Non, mais... parce que tu vois, il y en a dans le lot qui sont bien, il y en a qui sont mauvais, mais finalement, il y a tout le monde qui est mis dans le même sac à cause de gens qui abusent de ce système.
Ah oui, mais j'ai envie de dire, c'est le problème d'un système qui est basé sur la confiance. À un moment donné, quand les gens ont plus la confiance, ben, voilà ce qui se passe. Et pour terminer, moi, je pense que la démarche la plus saine, c'est celle qu'a fait Larian avec Divinity Original Sin 2. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un studio qui arrive, qui a déjà financé son jeu, qui le dit. Alors nous, le projet, on l'a financé, voilà, il est financé. L'argent du Kickstarter servira uniquement à ajouter des trucs en supplément, quoi, en gros. Le jeu, quoi qu'il arrive, il sortira. Enfin, en gros, c'est des mecs qui sont transparents dans leur démarche, quoi. Moi, je pense que déjà, si on faisait ça, ce serait pas mal. Parce que, très honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui s'en foutent qu'un jeu soit financé par un éditeur. Exemple, Shenmue 3. Je veux dire, c'était évident que Sony était derrière, machin. Voilà. Et je pense qu'en tout cas, le système gagnerait un minimum de transparence. Après, de là à demander au studio de se financer entièrement par ce biais, je pense que c'est totalement suicidaire. Bref, je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'on en est quand même à plus d'une heure, donc on va pouvoir s'arrêter. On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.
Ciao.